Alors, est-ce que je pense que chacun de nous sait quel est l'être vivant qui marche sur quatre pattes au matin, sur deux à midi et sur trois le soir. Certains vous connaissez cette énigme du sphinx, il s'agit donc bien de l'être humain. Alors selon que vous faites partie de l'une ou l'autre de ces catégories, vous serez plus ou moins d'accord avec moi quand je dirai que à la fin du vécu d'une année et devant l'incertitude d'une nouvelle année qui vient, on fait le constat de notre fragilité. Alors oui, je sais, quand on est solidement campé sur ses deux jambes, on a du mal à accepter ça. On a du mal d'être d'accord avec l'Ecclésiaste quand il affirme, une fois au début, une fois à la fin de son livre, dérisoire. Absolument dérisoire, oui dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire. Et notre être tout entier refuse cette sentence. Notre devise est plutôt « je pense, donc je suis » avec tout ce que cela comporte. Et parce que néanmoins, dans notre société, on se rend quand même bien compte qu'en définitive, tout est quand même dérisoire. On court après la consommation, après la jouissance dans tous les domaines. Et faute de trouver des éléments de stabilité et d'espérance, nous accomplissons ces autres paroles de l'Église, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir recherché de la stabilité. Car dès que nous en avons eu la possibilité, nous avons cherché à abandonner la position fragile à quatre pattes pour nous redresser, affronter les circonstances, la tête haute, le torse bombé et le pas ferme. Et nous faisons tout ce qui est dans nos possibilités pour apprendre. Apprendre et encore apprendre de manière à être bien formé dans tous les domaines, afin de pouvoir envisager une belle carrière, un bon mariage et une vie de sécurité. Et ce sont là, certes, de très bonnes dispositions qui répondent d'une certaine manière au projet du Créateur pour l'être humain quand il a dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Alors dites-moi, pourquoi ce monsieur à qui vraiment tout a réussi, qui a réussi au maximum des possibilités humaines et terrestres, pourquoi lance-t-il cette sentence terrible, dérisoire? Tout est dérisoire. Oui, dérisoire. Tout est dérisoire. Et cet homme nous donne lui-même, quelque part dans les proverbes, une grande partie de la réponse, en présentant ceux dont les êtres humains auraient dû se souvenir pour éviter que leur vie ne tourne au dérisoire. Le commencement de la sagesse, a-t-il écrit, c'est la crainte de l'Éternel et la connaissance du Dieu Saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Et un autre auteur biblique, Jérémie, fait ce même constat au chapitre 2, verset 13, qui confirme pourquoi les êtres humains en sont arrivés à cette situation tristement dérisoire. Jérémie écrit, c'est parce qu'ils ont abandonné Dieu, ils m'ont abandonné, dit Dieu, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser de des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau, dit l'Éternel. Alors, dites-moi, est-ce qu'envisager une belle carrière, un bon mariage, une vie de sécurité, ce sont des citernes fissurées? Ne venons-nous pas de dire que c'est une partie de ce qui correspond au projet du Créateur pour l'être humain? Mais ce projet, justement, comportait implicitement que l'être humain réalise ce projet en harmonie avec son Créateur. Cependant, plutôt que de persévérer dans cette harmonie avec le Créateur et la dépendance de lui, l'être humain a préféré suivre sa propre voie, VOIX, et aussi la voie VOIE du tentateur, quand il leur a susurré tristement, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal par vous-même. Vous n'aurez plus besoin de dépendre de Dieu. Vous serez autonome. Vous serez comme des dieux. Et oui, Dieu fait ce triste constat. Ils m'ont abandonné. Et tout est devenu dérisoire. Absolument dérisoire. Citernes fissurées qui ne retiennent plus l'eau. Fragilité. Cependant, si nous sommes ici ce matin, si un jour nous avons décidé de nous arrêter et de réfléchir, c'est que nous sommes conscients de ces choses. Et donc finalement, je prêche des convaincus. Et c'est bien heureux. C'est bien, c'est tant mieux comme ça. Oui, si nous sommes ici ce matin, c'est que justement nous avons bien au contraire décidé de choisir, de puiser avec joie de l'eau aux sources du salut. De cette eau qui jaillira, comme dit Jésus en Jean 4, jusque dans la vie éternelle. Et aussi parce que, au cours de l'année qui vient, qui est entamée, nous serons confrontés à notre fragilité, même si nous sommes bien campés sur nos deux jambes. Parce que aussi au cours de l'année, le même tentateur que celui qui a séduit nos premiers parents, et qui a même essayé de séduire Jésus, le Fils de Dieu, soit nous susurrera des choses agréables aux oreilles, soit cherchera à nous décourager, à nous faire douter, comme c'est son métier de le faire. Et il le connaît très bien, ce métier. Et face à ces réalités, je vous propose que nous nous tournions vers la parole de Dieu pour y puiser avec joie, et trouver des points d'ancrage pour justement confronter ces situations. Pour cela, je me suis basé sur des fiches que nous avons réalisées en étant dans le cadre de formation baptême que nous avons faite dans notre église. Dans l'une de ces fiches sont répertoriés un certain nombre d'éléments constitutifs de la vie chrétienne. Et c'est cette fiche que je vais prendre comme ligne de conduite. Cette vie chrétienne qui commence et se perpétue par un profond respect pour Dieu et une pleine confiance dans sa bonté. Deux versets des psaumes nous précisent cela. Premièrement, au psaume 33, verset 18, « Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, qui le respectent, et qui espère en sa bonté. » Ou alors aussi au psaume 147, verset 11, « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Alors je dirais, puissions-nous, au cours de cette année que nous avons entamée, nous souvenir constamment que Dieu, le Tout-Puissant, le juste, le saint, mérite notre plus profond respect. Et que ce même Dieu mérite aussi notre plus sincère confiance. C'est l'élément de base pour la vie chrétienne. C'est l'élément de base pour tout engagement dans la vie avec Dieu. Sans ce fondement, tout le reste est bancal. Nous souvenir que notre Dieu mérite notre profond respect et en même temps mérite notre sincère et profonde confiance. C'est notre premier point d'ancrage. Ensuite, puisque nous manifestons ce respect et cette confiance envers Dieu, nous l'avons accueilli dans nos vies et nous croyons en lui. L'Écriture nous dit que cela a une conséquence inouïe dont nous ferons bien de nous rappeler tout au long de cette année. À la fois comme une ferme assurance que comme un genre d'aiguillon lorsque nous sommes tentés de nous égarer. Cette conséquence, nous la connaissons bien tous. Elle nous est présentée d'une part en Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. La conséquence de...
La lumière.
Ah ben je reviens, je ne sais pas comment on fait la lumière.
Tu en as besoin pour lire ?
Non, ça va.
Je
sais pas.
Ça gêne la lumière ?
Non, ça gêne personne.
D'accord, ok. Donc la conséquence d'avoir accueilli le Seigneur et sa parole dans nos vies, c'est qu'il fait de nous ses enfants. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est le premier passage qui nous dit cela, c'est Jean 1, verset 12. Et le second, par exemple, c'est en Galates 4, verset 5, où il nous est dit que Dieu a envoyé son Fils. De ce fait, cela nous a permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Oui. Que ce soit dans des moments de doute, dans des moments de découragement, ou des moments de difficulté, souvenons-nous toujours que ce n'est pas à cause de nos œuvres, ni à cause de nos mérites, que nous avons été adoptés comme enfants par notre Dieu, mais pour une raison beaucoup plus valable, parce que Dieu lui-même est venu vers nous en nous envoyant son Fils. Ceci sera notre deuxième principe. Mais souvenons-nous quand même que ce statut n'est pas seulement un privilège, mais aussi une responsabilité. En effet, comme aime à le répéter un de mes amis, la renommée de Dieu dépend de nous et de notre comportement. Je passerai rapidement sur le troisième élément de notre fiche. Il y est question de réaliser notre état de pécheur devant Dieu, le saint et le juste. Nous avons conclu cet aspect de cette manière. Accueillir et croire ont été nos premiers pas. Ils ont eu pour conséquence de nous amener à nous repentir de certains aspects de notre conduite passée et changer notre attitude, ce qui est source de joie pour nous et dans le ciel. Et je m'attarderai plus longuement sur le quatrième élément, car il me semble être un point d'ancrage important pour notre vécu journalier. Nous avons résumé cet élément ainsi. Intégrer dans notre raisonnement la réalité du salut obtenu par grâce, par le moyen de la foi en l'œuvre de Jésus. C'est encore une fois mettre une pleine confiance en notre Dieu et ses promesses, telles qu'elles nous ont été faites en 1 Jean 1, versets 7 et 9, par exemple. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas à revenir là-dessus. Dans son célèbre psaume 32, David, qui avait toujours présent devant ses yeux l'objet de son péché en la personne de Bathsheba qu'il avait accueilli dans son palais, écrit comment son corps dépérissait, comment il gémissait toute la journée, comment sa vigueur avait fait place à la sécheresse, justement à cause de son péché. Mais il continue son psaume ainsi. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. tu as pardonné mon péché. Pour lui, pour David, ce pardon est devenu une telle évidence que c'est avec cette évidence qu'il débute ce même psaume, et non pas avec sa lamentation. Heureux, dit-il, celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. David fait pleinement confiance à la parole du Seigneur transmise par le prophète Nathan. Il lui avait dit, je le répète, l'Éternel pardonne ton péché. Alors depuis ce que nous avons dit tout à l'heure, où il était tout à fait déchiré à cause de son péché, est-ce que tout d'un coup les circonstances extérieures avaient changé? Non, bien au contraire. Maintenant, il n'y avait plus seulement Bathsheba, pourtant le palais, il y avait aussi le bébé qui venait de naître. Et tous les jours, cette même présence était là. Mais David fait concrètement confiance à la bonté de Dieu qui lui accorde son pardon. Il ne revient plus là-dessus. Alors, certes, non seulement le diable, mais aussi tous ceux de son entourage qui lui en voulaient, ne loupaient aucune occasion pour lui rappeler ses fautes. Mais lui, immuablement, reste ferme dans son attitude de confiance. Nous connaissons tous cet ancien cantique dont l'une des strophes dit « Quand Satan vient te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher. » Et nous l'avons déjà dit, il ne loupe pas une occasion pour le faire, c'est son job. Le cantique continue « Que Christ soit ton assurance. » Que Christ soit ton assurance. C'est-à-dire, confie-toi dans l'œuvre de Christ, dont le sang nous purifie de tout péché. Ça, c'est un autre point d'ancrage très fort, auquel nous aurons certainement à faire référence au cours de notre année. Revenir sans cesse, se lamenter sur ses péchés, ce n'est pas faire confiance à notre Dieu. Ce n'est pas accepter son pardon. Ce n'est pas l'honorer. Le Nouveau Testament met en avant le changement qui intervient pour ceux qui accueillent Christ dans leur vie et croient en lui. Nous avons déjà vu que ceux qui font cette démarche sont devenus enfants de Dieu. Et Jésus lui-même fait mention de notre réalité qui est consécutive à cet accueil. Cette réalité est d'une certaine manière encore plus forte que celle de la filiation. L'examen de cette réalité sera notre prochain point d'ancrage. Nous avons défini cela ainsi dans notre fiche. Par l'acceptation de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies se réalise notre union avec lui, par laquelle nous sommes des sarments attachés au sceptre. Nous connaissons tous ces paroles très fortes que Jésus adresse aux disciples en Jean 15, verset 3. Vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Ce sont d'autres mots pour dire qu'ils ont accueilli l'enseignement de Jésus et y ont cru. Et Jésus poursuit. Je suis le cèpe de la vigne, vous en êtes les sarments attachés au cèpe. C'est-à-dire que vous formez une même plante avec ce cèpe que je suis nommé. Certes, Jésus dit cela à des juifs, des gens qui, quoique ayant besoin de repentance, étaient quand même descendants d'Abraham. Pour eux, cette réalité pouvait encore être acceptable, mais pour les païens, dont nous sommes les descendants, ceux dont il est écrit qu'ils étaient sans Messie, qu'ils n'avaient pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, qui étaient étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, selon Éphésiens 2:12, cette réalité-là est encore beaucoup plus surprenante et plus fantastique. Elle est pourtant une réalité, comme le dit clairement le verset suivant, « Mais maintenant, par votre union avec Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches, grâce au sacrifice de Christ. » Cette expression « par votre union avec Christ » ou « unir en Christ » se retrouve de multiples reprises dans les écrits de Paul et de Pierre. Elle exprime exactement la même réalité que quand Jésus parle du sarment uni au Seigneur. Et c'est bien la réalité. Et c'est bien la réalité. En tant qu'enfants de Dieu, nous formons une seule plante avec lui. Nous faisons partie de son corps dont il est la tête. Je ne sais pas si nous arrivons un tout petit peu à réaliser ce que ça signifie. Que nous, des êtres humains, qui avons l'habitude d'être révoltés contre Dieu, il nous offre la possibilité d'être unis à lui, faire d'être une seule plante avec lui. Et pour cette même raison, la communion avec Dieu, qui avait été rompue par la chute de nos premiers parents, a été rétablie. Et notre Dieu rétablit en même temps, nous rétablit en même temps dans la vocation initiale qu'il avait pour l'être humain. Car Jésus nous a ouvert la route qui nous donne un libre accès à Dieu et à son sanctuaire. Cela aussi est une autre ancre sûre pour notre foi au quotidien. Alors certes, vous me direz, qui d'entre nous, quand il conduit sa voiture, quand il ou elle épluche des pommes de terre, ou fait la vaisselle, ou est dans son bureau, ou sur son banc d'école, ou que sais-je, qui d'entre nous ressent quelque chose qui lui fait remarquer qu'il est une même plante, un même être avec le Dieu vivant, le Dieu qui domine la mer. Encore une fois, il s'agit tout simplement de faire confiance à ce Dieu dont la bonté est si grande et si présente chaque jour que ça lui permet de faire de ces choses-là une réalité dont nous sommes tout simplement des bénéficiaires par sa grâce. Et même si nous ne ressentons rien, et parfois même le contraire, ça ne change rien. La réalité divine reste la même. Et c'est ce qui est merveilleux dans cette affaire. Encore un puissant point d'ancrage. Nous allons laisser de côté les autres éléments de cette fiche et nous allons reprendre le dernier élément que j'ai intitulé « Finalité », qui vont être décrites dans deux passages bien connus. Tout d'abord, Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis moi-même chaque jour avec vous. C'est Jésus qui dit ça. Jésus donc est avec nous tous les jours pendant notre pèlerinage ici-là. Face à nos fragilités, conscientes ou inconscientes, avouées ou inavouées, peut-il y avoir assurance plus puissante, ancrage plus solide que de savoir que celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre est avec nous pendant tous les jours de notre vie. Cependant, ne nous y méprenons pas. Cela ne signifie nullement qu'à cause de tout cela, tout va rouler comme sur des roulettes pour nous. Si on en croit les paroles même de Jésus, ça pourrait même être le contraire. Et cela, beaucoup, beaucoup de nos frères et sœurs au travers du monde fond la dure expérience. Jésus exprime cela d'ailleurs en Jean 16, versets 30 à 33, où nous lisons que les disciples dirent à Jésus, « Nous croyons maintenant que tu viens de Dieu. » Ainsi donc, leur répondit-il, « Vous croyez à présent ? Mais l'heure vient. Vous serez dispersés, chacun de son côté. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais, il s'arrête pas là. Mais courage, moi, j'ai vaincu. Mais il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Hein, je dis plus. Voilà. Et c'est précisément parce que nous trouvons la paix en lui que nous pouvons affronter les difficultés parfois très importantes de la vie de chaque jour. Et le deuxième passage qui décrit les finalités ultimes qui ont trait aux réalités, passage a trait aux réalités éternelles. Je me suis donné en Jean 14, verset 1 et suivant. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse que nous serons pour toujours avec Jésus. Pendant notre pèlerinage ici-bas, c'est lui qui est avec nous. Et il nous donne cette espérance certaine que nous aurons l'occasion d'être avec lui pour l'éternité. Alors vous allez me dire, mais quelle garantie avons-nous pour affirmer telle chose? Quelle garantie est-ce que nous pouvons présenter pour garantir de telles choses? Et je répondrai, encore une fois, tout repose sur la confiance que nous mettons ou non dans la bonté de notre Dieu. Je disais un jour à un ami pasteur, tout commence par la confiance qu'on met en la bonté de Dieu. Et lui me répond, oui, et tout termine aussi. Le début, la base, comme on a dit, c'est mettre notre confiance dans la bonté de Dieu. Pour débuter la formation au baptême, j'aime à citer ce verset provocateur de 1 Corinthiens 1, verset 18. En effet, le message de la croix, le message biblique, est une folie pour ceux qui périssent. Si nous on y réfléchit un instant, c'est effectivement une folie. Aller croire qu'un homme qui est là pendu à la croix, c'est le salut de l'humanité, c'est une folie. Une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Il s'agit tout simplement de l'accepter, de le croire ou non. Si nous le croyons, et l'acceptons, nous faisons l'expérience de la réalité de la chose. Donc pour conclure, puissions-nous tous les jours nous souvenir que manifester un profond respect pour Dieu et une confiance sincère en sa bonté sont la base de tout. Nous souvenir que ce Dieu fait de nous ses enfants, qui nous unit à Jésus quand nous l'accueillons dans nos vies. Que ce sont là nos premiers pas qui nous ont amenés à nous repentir, à reconnaître nos péchés. Suite à notre demande de pardon, Dieu nous a pardonné et nous a purifiés de nos péchés par la puissance du sang de Jésus. Et à partir de ce moment, Dieu ne tient plus compte de nos péchés. Parce que par l'œuvre de Jésus, il les a jetés au fond de la mer. Et puisqu'autant l'Orient était éloigné de l'Occident, autant il les a, il éloigné de nous nos transgressions. Donc les conséquences ultimes de tout cela, comme nous l'avons déjà dit, nous sommes assurés de la présence permanente de Jésus avec nous pendant notre cheminement ici-bas. Et que pendant ce cheminement, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, selon Romains 8:3. De même, nous sommes assurés que Jésus est en train de nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et puisque finalement, on n'est qu'au début de l'année et que c'est presque encore le moment des vœux, c'est sur ces bases que je vous souhaite à tous, à chacun, une vraiment bonne et heureuse année. Que nous marchions à quatre, deux ou trois pas. Bonne année à chacun. Et que votre Église continue à être un flambeau dans cette région. Merci pour votre attention.